Bonjour à tous. J'éprouve la même émotion que mon frère, me trouver devant vous, mais aussi dire quelques mots de la grandeur de notre Dieu, c'est une belle responsabilité. Et je crois qu'on peut trembler devant cela. Alors sachez que j'ai besoin de vos prières. Simplement, j'ai le soutien du Seigneur, sa confiance. Merci Seigneur pour sa grandeur. Je ne sais pas vous, mais en ce qui me concerne, presque chaque jour, j'ai quelque chose qui m'arrive pour me faire apercevoir quelque chose de l'immensité de Dieu. Avant-hier, j'ai eu la connaissance que nous avions 2000 milliards de cellules. Notre corps, à chacun, est constitué de 2000 milliards de cellules. Parce qu'on peut imaginer, c'est la grandeur de notre Dieu, ça, il a fabriqué ça. Il nous a donné une autonomie, il nous a donné quelque chose de fabuleux qui apprécie chaque jour, chacune des fonctions dont il a la maîtrise. Et grâce à lui, nous sommes encore là et nous avons la vie de chacune de ces cellules-là, que lui contrôle, autant que les 200 milliards de galaxies. Souvenez-vous que je vous en parlais il y a quelque temps. 200 milliards de galaxies, dont une galaxie contient entre 1000 et 1 milliard de planètes, d'étoiles. Ça nous donne une petite idée de cette grandeur-là. En tout cas, moi, je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais on ne peut pas approcher ça. Le Seigneur ne nous a pas donné la capacité de nous imaginer ce que c'est que sa grandeur et qu'il maintient toutes ces choses en équilibre. Et il y a encore des personnes qui disent, est-ce qu'il y a un Dieu ? Est-ce qu'il y a un Dieu ? Merci pour que quelqu'un a prié pour ce monde qui ne croit pas et qui s'enfonce dans un jugement terrible. Aussi, soyons des messagers de notre Seigneur pour leur dire sa grandeur et la grandeur de son amour insondable. Une deuxième chose, c'est quelqu'un qui nous a dit que il avait trouvé 145 noms de Jésus. Jésus a 145 noms. Il a trouvé ça dans l'encyclopédie biblique de Frank Reisdorf Ries, La croisade du livre chrétien. Je ne savais pas que notre Seigneur avait autant de noms. Je vous en donne quelques-uns. Amen, dans l'Apocalypse. C'est un nom du Seigneur. Bien-aimé en Éphésiens. Docteur de la loi. Étoile du matin. Garant d'une meilleure alliance. Libérateur. Orient d'en haut. Saint serviteur Jésus. J'ai quelques noms par ordre alphabétique. Et bon, je crois que vous aurez compris que notre Seigneur est une grandeur incomparable. Incomparable. Et il m'a choisi. Poussière perdue dans l'univers, son univers à lui. Est-ce possible? Alors, le Seigneur a mis à cœur ces quelques réflexions que je voulais partager avec vous. Dans 2 Paul, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Aujourd'hui, choisissez qui vous voulez servir. Et nous supplions pour Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dimanche dernier, à cause de la neige, nous étions face à la télévision et comme l'a rappelé Jean-Luc, c'était une émission qui concernait l'œcuménisme. C'est heureux qu'il y ait des personnes qui apprécient que nous puissions, nous les chrétiens, nous reconnaître comme étant une seule famille avec un seul Père qui nous aime d'un amour unique, notre bien-aimé Sauveur, mais avec quel aléa? Il est vrai qu'ils savent parler de l'amour de Dieu et c'est pas seulement à parler de l'amour de Dieu, c'est de le mettre en évidence et l'exercer entre nous. C'est à ceci que le monde connaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre nous, est-il dit, n'est-ce pas? Vous connaissez bien cette pensée-là. Et il prenait comme exemple de cet amour de Dieu et du prochain, cette réflexion que le Seigneur apporte dans la parabole du bon samaritain. Il disait que l'essentiel était ce que nous montrait cet étranger, le samaritain, qui était méprisé par le peuple, son peuple élu, parce qu'il ne pensait pas comme eux, il ne l'adorait pas sur la même montagne à Jérusalem, ces samaritains. Mais ceux qui connaissaient la loi, les lévites et les sacrificateurs, se sont détournés de celui qui gisait là, à demi-mort. Et c'est cet étranger qui s'est approché pour s'occuper de lui. Cet étranger, notre Seigneur bien-aimé, c'est une image de lui qui s'est approché de moi. Parce que j'étais moi aussi, pas seulement à demi-mort, mais complètement mort dans mes fautes et dans mes péchés. Vous êtes mort, vous étiez mort dans vos fautes et dans vos péchés. Mais le Seigneur a reluit et nous a donné la vie. Pas seulement la vie physique qu'il a maintenue dans sa grâce, mais il nous a fait cadeau de la vie éternelle. Alors, vous savez que Josué, à partir du moment où il a amené le peuple d'Israël dans la terre promise par Dieu, il s'est écrit en disant, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. » Voilà comment il s'adresse au peuple. C'est aussi pour nous. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et la suite, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'il avait une maison, Josué? Je ne sais pas. Il avait probablement une épouse, des enfants. La Bible ne nous dit pas, en tout cas, à ma connaissance. Mais s'adresser au peuple, comme nous pouvons nous adresser à nos frères et sœurs, et leur dire aujourd'hui, choisissez qui vous voulez servir. Mais à la fin, hélas, que va faire le peuple qui a de tels conseils et qui a entre les mains non seulement la Torah, mais le Tanakh à l'époque de Josué? On n'avait pas grand-chose comme écrit concernant la grandeur de notre Dieu. Mais on peut comprendre que au Mont Sinaï, le Seigneur avait donné la loi. Et il avait dit que si vous suivez cette loi, vous vivrez. Était-il capable de l'observer, cette loi? Sommes-nous capables d'observer toute la loi de Dieu? une petite convoitise, un petit mensonge, même pieux, s'il n'est pas pardonné par la grâce de notre Seigneur, si nous n'avons pas demandé pardon à Dieu pour ça, il y a quelque chose qui s'interpose et qui m'empêche de voir la splendeur de mon Sauveur bien-aimé. Aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est de nous encourager l'un l'autre. Comme il est dit en hébreu, exhortez-vous l'un l'autre chaque jour, aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui. On va nous encourager, mes frères et sœurs, à rester fidèles à notre Seigneur. Parce que moi, le premier, combien facilement je peux glisser vers quelque chose qui ne plaît pas à mon Sauveur, à mon Seigneur. L'Écriture dit que non seulement la majorité des hommes n'accepteront pas le message du salut, et c'est en Matthieu, au chapitre 13, que nous ouvrons cela, dans la parabole du semeur. Le semeur répand sa semence partout, mais il est évident que seule la semence qui est répandue dans un terrain qui a été labouré donnera naissance à de bons fruits, à la vie qui entretient la vie de l'homme. Mais elle annonce à la fin des temps qu'un très grand nombre de chrétiens de nom abandonneront aussi la foi. Comme le peuple d'Israël, qui avait cependant tellement de privilèges de la part du Dieu du Sinaï, à qui notre Dieu avait donné à Moïse toute la loi. 10 paroles. 10 paroles. Seulement. Incapable de les réaliser. Moi non plus, je ne peux pas les réaliser. J'ai besoin de toute la grâce du Seigneur chaque jour à sa caisse. Mais aussi, j'ai recours au pardon divin, au pardon de Dieu sur la base du sacrifice accompli par le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché. J'ai besoin de son pardon, j'ai besoin de lui demander pardon. Pour nous comme pour l'Église entière, il est écrit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Suppliez donc le maître de la moisson afin qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson. » C'est aussi pour nous qu'il a été écrit ces choses-là. Des ouvriers dans la moisson de Dieu. Quelle merveilleuse vocation qu'on a à désirer. Mais d'abord, il faut que ceux qui s'approchent de lui, nous dit Hébreux, croient que Dieu est et qu'il est le rémunérateur, qui c'est lui qui donne les récompenses de ceux qui le recherchent. Et pour notre temps, rappelons la douleur de l'apôtre Paul en Philippiens 3. Il déclare, car beaucoup, beaucoup, déjà du temps de l'apôtre, marchent, et je le dis même en pleurant, comme ennemis de la croix de Christ. Leur fin est la perdition. Pouvons-nous nous trouver devant ces choses aussi? Est-ce que plusieurs de nos pasteurs ne sont pas amenés à pleurer en voyant l'état de l'Église du Seigneur? Et pourtant, il vient à rechercher son Église, plus exactement son épouse, c'est-à-dire l'ensemble des vrais croyants, de ceux qui se sont attachés à lui jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce sont des paroles dont nous devons prendre conscience, et je pense qu'il nous faut les méditer. On a le salut. Est-ce qu'on peut perdre la vie éternelle? Certains pasteurs parlent de la possibilité de perdre la vie éternelle. Là, je ne peux pas les suivre. Parce que si le Seigneur nous a donné la vie éternelle, si elle est éternelle, comment peut-on la perdre? Et comment concilier ces paroles-là avec ce que nous venons de dire, qu'il nous faut persévérer jusqu'à la fin? La raison pour laquelle nous pouvons dire qu'il y a de vrais chrétiens, et il y en a de faux aussi, dans l'Église du Seigneur. Matthieu 7. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Ah oui, la puissance du Seigneur, la puissance du nom du Seigneur peut cela. En invoquant le Seigneur, on peut, certains en tout cas, ont chassé des démons en annonçant Christ et la valeur du nom de Christ. Alors vous vous mettrez à dire, c'est une citation de l'évangile de Luc, nous avons mangé et bu en ta présence, on a célébré la Sainte-Cène ensemble, Seigneur. Tu as enseigné dans nos rues, mais il dira, je vous le déclare, je ne sais pas d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Rappelons les conséquences bénies des renoncements des compagnons du Christ. Les compagnons de Daniel qui ont refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. La rage lui est venue à la figure et il a commandé à ce qu'on chauffe la fournaise 7 fois plus fort. Et les plus valeureux parmi ses fidèles serviteurs ont jeté les 3 compagnons de Daniel dans la fournaise. Vous savez, ensuite, nous avons appris ça déjà dans notre enfance. L'histoire de Daniel nous a été racontée avec bonheur. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel, les 3 compagnons de Daniel se sont trouvés dans la fournaise. Même leurs cheveux n'ont pas été touchés par la flamme. Et non seulement ça, mais miracle, un 4e se trouvait avec eux, qui avait la forme d'un fils de Dieu. Jésus-Christ était là, dans la fournaise, les accompagnant. C'est de la folie, n'est-ce pas? C'est de la folie de croire ça. Pour nous chrétiens, c'est encore plus fou de ne pas croire en l'existence d'un Dieu juste et saint, devant lequel tout homme devra se tenir un jour, parce qu'il y a à un moment une échéance biologique à laquelle personne n'échappe. Et là, seul à seul devant Dieu, là où on ne discute plus, on se trouve devant le grand Dieu des cieux et de la terre pour le jugement éternel. Souvenons-vous de la fin de Job. Un serviteur de Dieu, méchamment éprouvé, meurtri par une violence inouïe autant que gratuite, par la fureur d'un Satan dépité. Il a tout perdu. Il a même été affecté dans sa santé. Souvenez-vous que par la puissance qui n'est pas à négliger, celle de Satan, mais notre Seigneur est tout puissant. Il avait un ulcère tellement affligeant qu'il devait se gratter avec un tesson de bouteille. Merci Seigneur de l'exemple d'un Job. Merci Seigneur de la capacité d'un Job de tenir bon dans l'épreuve. Merci Seigneur de me dire que quand l'épreuve est là, tu es là aussi. Et tu nous aides à traverser cette épreuve, de quelque nature qu'elle soit. Le martyr des apôtres leur rapportera un trône avec le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mais vous, dit Luc au chapitre 22, Vous vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes tentations, dans mes épreuves. Et moi, je vous confère un royaume comme mon Père m'en a conféré un, afin que vous mangiez, que vous buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes jugeant les 12 tribus d'Israël. Vous les apôtres, les 12 apôtres, sélectionnés par le Seigneur, ont été fidèles jusqu'au bout, et même plusieurs ont connu le martyre. Mais le Seigneur leur a réservé un trône avec lui, comme lui a reçu de son Père un trône, et il jugera les 12 tribus d'Israël. Je reviens à quelque chose de plus particulier, avertir nos enfants qui n'attendent peut-être que notre témoignage pour parler du salut en Christ. Tous les jours, nous exprimons au Seigneur ensemble. Seigneur, le souhait de mon cœur et la fervente supplication que je t'adresse, c'est de l'apôtre Paul à Romains, c'est qu'il soit sauvé. Nous aimons suffisamment nos enfants pour souhaiter cela aussi à chacun d'entre eux. Et bien que le Seigneur ait fait des promesses concernant la famille, il n'est pas pour autant que tous sont sauvés. En tout cas, nous ne les voyons pas tous nécessairement suivant le Seigneur comme on souhaiterait que de les voir. Demandons au Seigneur de nous donner les mots, de susciter des occasions pour leur rappeler le don de la foi en Jésus-Christ. Et souvent, je me demande, plusieurs parmi nous, peut-être, ont des petits-enfants, j'en ai aussi, de chers petits-enfants, et combien nous nous réjouissons de les voir grandir et de les voir se réjouir. Ils nous réjouissent parce qu'ils ont 1 an, 2 ans. Ils sont tellement mignons. Ils nous inspirent le bonheur. Et je me dis, mais nous avons un Père aux cieux aussi qui voit ses enfants sur la terre, qui les observe. Nous observons nos petits-enfants et nous nous réjouissons de les voir dans leur innocence nous faire de beaux caprices que nous aimons. Est-ce que le Seigneur voit en moi de la fidélité? Est-ce que le Seigneur voit en moi de l'innocence? Est-ce que le Seigneur, notre Père Céleste qui est aux cieux, dit une prière, n'est-ce pas? Est-ce que le Seigneur me voyant marcher, me voyant marcher sur cette terre, se réjouit aussi de me voir grandir dans la connaissance de mon Sauveur bien-aimé, en pureté? Oh, vous savez, il y aura des prétextes, des préjugés, hein, ne vous inquiétez pas. L'ennemi va nous en abreuver. Oh, laissons agir le Seigneur. Il fait toutes choses bien en son temps. C'est lui qui convainc, c'est son Esprit Saint qui convainc de péché, de justice et de jugement. Alors nous n'avons rien à faire. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent « Laissons faire le Seigneur, il fait toutes choses bien en son temps. » Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul insiste auprès de son enfant Timothée. Prêche la parole. Convainc. Il ne faut pas convaincre, non? La parole de Dieu nous dit convainc. Reprend. Avec toute douceur et longanimité. Bien sûr, il faudra combattre. Et être particulièrement vigilant dans la prière. Est-ce que tous les jours nous ne prions pas pour nos enfants? Persévérons dans la prière, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime et qui nous a tant aimés. Et il l'a prouvé par un amour sans faille Le Seigneur s'est sacrifié pour moi. Et le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et il nous dit, quel genre deviez-vous être en sainte conduite et en piété devant Dieu. Que le Seigneur le rende responsable de montrer notre joie de lui appartenir, notre vraie liberté dans une vie avec le Seigneur. Alors, je voudrais partager quelques anecdotes avec vous, mes chers amis, pour achever ce moment de partage. Celui dont parlait Jean d'Ormesson lorsqu'il affirma « Il n'y a pas d'autre romancier, pas d'autre musicien, d'artiste que Dieu. » Il y a ceux qui tentent de le traduire pour l'inviter à contempler sa gloire, à ceux qui le déforment, sa gloire. Mais il n'est pas bon d'être avec ces derniers. On ne saurait citer tous ceux qui sont approchés de Dieu à travers la contemplation et l'étude de la nature. Quand la beauté d'une mélodie me bouleverse, je dis merci au compositeur, certes, mais plus encore à celui qui a rendu cet homme capable d'écrire cela et qui me donne la capacité de l'entendre. Alors, l'existence de la beauté peut-elle s'expliquer si tout n'est que le fruit du hasard? C'est Proust qui aurait dit, le seul véritable voyage n'est pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir de nouveaux yeux. Si vous doutez encore de l'existence de Dieu ou de sa capacité, s'il existe, à se préoccuper des créatures insignifiantes que nous pouvons représenter sur notre minuscule planète, je souhaite de tout cœur, non que vous ayez de nouveaux yeux, mais que vous ouvriez ceux que Dieu vous a donnés. Car je suis convaincu que la nature à elle seule, dès que l'on se penche pour voir et l'entendre, porte les preuves quasi aveuglantes de la toute sagesse et de la bonté du Créateur. Comment le hasard aurait-il pu imaginer tant de beauté, tant d'éléments interdépendants, dont l'absence d'un seul signifie ou signifierait le néant? Réfléchissez un instant. Si ce n'est que pour se persuader soi-même et faire taire sa conscience, qui peut honnêtement prétendre que l'univers s'est fait à partir de rien, sans raison? Mais lorsqu'on cesse de se fermer les yeux, le plus extraordinaire voyage conduit à la rencontre de l'auteur, de l'architecte, de l'artiste, de tout ce que voient nos yeux, de ce qui nous émerveille, de tout ce que nos cœurs aiment. Et ce n'est qu'un commencement. Il fut un temps où la ferveur des croyants était légendaire. Vous vous souviendrez peut-être les plus âgés qu'il y avait Billy Graham et bien d'autres évangélistes de renom qui nous ont entraînés dans un évangile qui nous confondait et qui ont confondu les foules. Et des personnes se sont approchées de Dieu grâce à leur témoignage. Une autre anecdote. Dans une famille noble en Angleterre, quelqu'un avait reçu, un fils en tout cas, avait reçu la charge d'être ambassadeur de la reine Victoria. Donc ça remonte quand même à quelques siècles, deux siècles. Vous voyez ce que le père lui a dit? Mon fils, quelle déchéance! Mon fils, quelle déchéance! te voilà ambassadeur de la reine. Quelle déchéance! Tu étais un ambassadeur du roi des rois, et te voilà ambassadeur de la reine d'Angleterre. Quelle déchéance! Serions-nous capables de dire à nos enfants une telle déclaration? Il me semble que tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, mes chers amis, étaient des éléments qui nous permettent de nous raccrocher pour que nous puissions communiquer avec ceux qui nous sont proches et que nous aimons le même désir d'être avec Christ, de vivre de Christ, de vivre avec lui et pour lui. Le dernier épisode, c'est avec l'évangéliste Georges Muller, que peut-être certains connaissent. Un capitaine de navire chrétien avait à son bord Georges Muller. Il raconte, notre bateau était à l'arrêt depuis plusieurs jours, dans un brouillard impénétrable, sans un souffle de vent. Monsieur Muller vint me trouver dans ma cabine et me dit, « Capitaine, je dois être au Québec samedi soir. » C'est impossible, répondis-je. Très bien. Si votre navire ne peut m'y emmener, le Dieu que je connais depuis 57 ans trouvera un autre moyen de transport. Il ne m'a jamais laissé manquer ni être en retard à mes engagements. Savez-vous quelle est l'épaisseur de ce brouillard? Non, mes yeux ne voient pas le brouillard. Il voit le Dieu vivant qui dirige toute ma vie. Georges Muller se mit à genoux pour prier. Seigneur, si telle est ta volonté, fais disparaître ce brouillard en 5 minutes. Tu sais que j'ai promis d'être à Québec samedi. Je crois que c'est ta volonté. Lorsqu'il eut fini de prier, je voulus prier, moi, le capitaine. Il me mit la main sur l'épaule et me demanda de ne pas le faire, précisant premièrement, vous ne croyez pas que Dieu le fera. Et deuxièmement, je sais que Dieu l'a déjà fait. Il n'est donc pas nécessaire que vous priez dans ce même but. Levez-vous, capitaine, montez sur le pont et constatez que le brouillard a déjà disparu. J'y allais, le vent s'était levé, le brouillard avait disparu. Le samedi soir, Georges Muller était au Québec. Et si nous avions cette foi d'antan? Et si nous avions cette foi d'antan? Toutes choses sont possibles à notre Dieu. Aujourd'hui, encore, il fait des merveilles. Et nous en sommes des témoins quotidiennement que notre Dieu fait des merveilles. Et pour terminer, mes amis, un verset d'Ésaïe 13, verset 33. Mes hommes forts, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. Êtes-vous parmi ceux qui se réjouissent de la grandeur de Dieu? Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier, si vous voulez bien. Nous inclinons dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant toi, avec toute notre indigence, avec toute la faiblesse qui nous caractérise, notre infirmité. Mais nous avons confiance en ta bonté. Nous, ta parole nous dit qu'elle est meilleure que la vie. Je ne comprends pas, Seigneur. Mais en tout cas, j'apprécie cette bonté de Dieu qui m'a soutenu jusqu'à aujourd'hui et qui le fera encore jusqu'à ce que tu nous recueilles, jusqu'à ce que tu reviennes. C'est selon ta volonté. Qu'entre-temps, nous puissions être ses ambassadeurs pour Christ dans un monde qui est une terre étrangère, puisque rebelle à la volonté de Dieu. Mais tu nous fais tes ambassadeurs, Seigneur, pour que soit connu le merveilleux salut que tu as accompli une fois pour toutes, Seigneur Jésus, en acceptant ce sacrifice que la volonté de Dieu t'a confié jusqu'à son achèvement et jusqu'à ce que tu dises « Tout est accompli ». Et en disant cela, Jésus a mis son esprit entre les mains du Père. Merci Seigneur, parce que tu es ressuscité. Merci parce que 3 jours après, et je passais dans le tombeau, tu es vivant à jamais. Et c'est ce Dieu-là que nous voulons prêcher aujourd'hui. Et nous te demandons le secours qui vient d'en haut, Seigneur, pour que nous soyons ces serviteurs fidèles, ces semeurs qui répandent cette semence de vie dans un monde qui en a tant besoin. S'il te plaît, Seigneur, use de grâce, encore aujourd'hui, et demain si tu n'es pas revenu, mais qu'entre-temps, nous sachions que tu nous demandes de t'être fidèles, fidèles jusqu'à la mort. Oui, c'était le leitmotiv de quelques-uns de ces martyrs. Ils t'appellent, Seigneur, de nous utiliser encore pour parler de toi, autour de nous, pour être vivants pour toi, pour être des exemples pour ceux qui recherchent la vérité, qui recherchent le chemin et qui recherchent la vie. Nous te demandons, notre Dieu, humblement, mais confiant en toi et dans tes promesses, nous exprimons à toi, notre Père, dans le bon nom de Jésus. Amen.